Chapitre 4. La fausse croisade.
Monseigneur de Mortimer, je vais avoir grande nécessité de chevaliers vaillants et preux tels que vous l'êtes pour entrer dans ma croisade, déclara Charles de Valois. Vous m'allez juger bien orgueilleux de dire « ma croisade » alors qu'en vérité, c'est celle de notre Seigneur Dieu. Mais je dois bien avouer, et tout chacun me le reconnaît, que si cette grande entreprise, la plus vaste et la plus glorieuse qui puisse requérir les nations chrétiennes, vient à se faire, c'est parce que je l'aurais de mes propres mains montée. Ainsi, Monseigneur de Mortimer, je vous le propose tout droit avec ma franche nature que vous apprendrez à connaître. Voulez-vous être des miens ?
Roger Mortimer se redressa sur son siège. Son visage se referma un peu et ses paupières s'abaissèrent à demi sur ses yeux couleur de pierre. Était-ce une bannière de 20 cuirasses qu'on lui offrait de commander ? Comme à un petit châtelain de province ou à un soldat d'aventure échoué là par l'infortune du sort. Une aumône, cette proposition. C'était la première fois que Mortimer était reçu par le comte de Valois, lequel, jusqu'à présent, avait toujours été pris par ses tâches au conseil, retenu par les réceptions d'ambassadeurs étrangers ou en déplacement à travers le royaume. Mortimer voyait enfin l'homme qui gouvernait la France et qui venait ce jour même d'introniser un de ses protégés, Jean de Cherchemont, comme nouveau chancelier. Mortimer était dans la situation, enviable certes pour un ancien prisonnier à vie, mais pénible pour un grand seigneur, de l'exilé, qui vient demander, n'a rien à offrir, et qui attend tout. L'entrevue avait lieu à l'hôtel du roi de Sicile que Charles de Valois avait reçu de son premier beau-père, Charles de Naples le Boiteux, en présent de noces. Dans la grande salle réservée aux audiences, une douzaine de personnes, écuyers, courtisans, secrétaires, s'entretenaient à voix basse, par petits groupes, en tournant fréquemment leurs regards vers le maître qui recevait, ainsi qu'un vrai souverain, sur une sorte de trône surmonté d'un dais. Monseigneur de Valois était vêtu d'une grande robe de maison en velours bleu brodée de V et de fleurs de lys, ouverte sur le devant, et qui laissait voir la doublure de fourrure. Ses mains étaient chargées de bagues. Il portait son sceau privé, gravé dans une pierre précieuse, pendu à la ceinture par une chaînette d'or. Et il avait pour coiffure une sorte de bonnet de velours maintenu par un cercle d'or ciselé, une couronne d'appartement. Il était entouré de son fils aîné, Philippe de Valois, un gaillard à grand nez bien découplé qui s'appuyait au dossier du trône, et de Robert d'Artois, son gendre, installé sur un tabouret et tendant vers le foyer ses grandes bottes de cuir rouge.
« Monseigneur, dit Mortimer lentement, si l'aide d'un homme qui est le premier parmi les barons des marches galloises, qui a gouverné le royaume d'Irlande et commandé en plusieurs batailles, peut vous être de quelque service, je vous apporterai volontiers cette aide pour la défense de la chrétienté, et mon sang vous est dès à présent acquis. »
Valois comprit que le personnage était fier qui parlait de ses fiefs démarches comme s'il les tenait encore. Un homme dont il faudrait ménager l'honneur si l'on voulait en tirer parti.
« J'ai l'avantage, sire baron, répondit-il, de voir se ranger sous la bannière du roi de France, c'est-à-dire la mienne, puisqu'il est entendu dès à présent que mon neveu continuera de gouverner le royaume pendant que je commanderai la croisade, de voir, dis-je, se ranger les premiers princes souverains d'Europe. Mon parent Jean de Luxembourg, roi de Bohême, mon beau-frère Robert de Naples et Sicile, mon cousin Alphonse d'Espagne, en même temps que les républiques de Gênes et de Venise, qui, sur la demande du très Saint-Père, nous apporteront l'appui de leurs galères. Vous ne serez donc pas en mauvaise compagnie, et je tiendrai à ce que chacun respecte et honore en vous le haut seigneur que vous êtes. La France, dont vos ancêtres sont venus, verra à mieux reconnaître vos mérites que ne semble le faire l'Angleterre. »
Mortimer inclina le front en silence. Cette assurance valait ce qu'elle valait. Il veillerait à ce qu'elle ne restât pas simplement de paroles.
Car voici 50 ans et plus, reprit Monseigneur de Valois, qu'on ne fait rien de grand en Europe pour le service de Dieu. Depuis mon grand-père Saint-Louis, tout exactement, qui, s'il y gagna le ciel, y laissa la vie. Les infidèles, encouragés par notre absence, ont relevé la tête et se croient partout les maîtres. Ils ravagent les côtes, pillent les bateaux, entravent le commerce et, par leur seule présence, profanent les lieux saints. Nous, qu'avons-nous fait? Nous nous sommes, d'année en année, repliés de toutes nos possessions, de tous nos établissements. Nous avons abandonné les forteresses que nous avions construites, négligé de défendre les droits sacrés que nous nous étions acquis. Ces temps sont révolus. Au début de l'année, les députés de la petite Arménie sont venus nous demander secours contre les Turcs. Je rends grâce à mon neveu, le roi Charles IV, d'avoir compris tout l'intérêt de leur démarche et d'avoir appuyé la suite que j'y ai donnée. Au point qu'à présent, il s'en arroge même l'idée première. Mais enfin, il est bon qu'il y croit. Ainsi, avant peu et nos forces rassemblées, nous allons partir et attaquer en terre lointaine les barbaresques. Robert d'Artois, qui entendait ce discours pour la 100e fois, opinait de la tête d'un air pénétré, tout en s'amusant secrètement de l'ardeur que montrait son beau-père à exposer les belles causes. Car Robert connaissait les dessous du jeu. Il savait qu'on avait effectivement projet de courir aux Turcs, mais en bousculant aussi un peu les chrétiens sur le passage. Car l'empereur Andronique Paléologue, qui régnait à Byzance, n'était pas le tenant de Mahomet, qu'on sache. Sans doute, son église n'était pas tout à fait la bonne, et l'on y faisait le signe de croix à l'envers, mais c'était tout de même le signe de croix. Or, Monseigneur de Valois poursuivait toujours l'idée de reconstituer à son profit le fameux empire de Constantinople, étendu non seulement sur les territoires byzantins, mais sur Chypre, sur Rhodes, sur l'Arménie, sur tous les anciens royaumes courtenais et lusignans. Et quand il arriverait là-bas, le comte Charles avec toutes ses bannières, Andronique Paléologue, à ce qu'on pouvait savoir, ne pèserait pas lourd. Monseigneur de Valois roulait dans sa tête des rêves de César. À remarquer d'ailleurs qu'il usait assez bien d'une manœuvre qui consistait à toujours demander le plus afin d'obtenir un peu. Ainsi, il avait essayé d'échanger son commandement de la croisade et ses prétentions au trône de Constantinople contre le petit royaume d'Arles sur le Rhône, à condition qu'on y adjoignît le Viennois. La négociation, entamée au début de l'année avec Jean de Luxembourg, avait échoué par l'opposition du duc de Savoie et par celle surtout du roi de Naples, lequel ne tenait nullement à voir son turbulent parent se constituer un royaume indépendant au bord de ses possessions de Provence. Alors, Monseigneur de Valois s'était remis avec plus d'entrain à la sainte expédition. Il était dit que cette couronne souveraine qui lui avait échappé en Espagne, en Allemagne, en Arles même, il lui faudrait aller la chercher à l'autre bout de la terre.
« Certes, tous les empêchements ne sont pas encore surmontés, » poursuivit Monseigneur de Valois. « Nous sommes encore en argument avec le Saint-Père sur le nombre de chevaliers et sur les soldes à leur donner. » Nous voulons 8 000 chevaliers et 30 000 hommes à pied, et que chaque baron reçoive 20 sols le jour, chaque chevalier 10, 7 sous et 6 deniers pour les écuyers, 2 sous aux hommes de pied. Le pape Jean veut me faire rétrécir mon armée à 4 000 chevaliers et 15 000 hommes de piétaille. Il me promet toutefois 12 galères armées. Il nous a autorisé la dîme, mais il rechigne aux 1 200 000 livres par an que nous lui demandons pendant 5 ans que durera la croisade, et surtout aux 400 000 livres nécessaires au roi de France pour les frais accessoires.
Dont 300 000 livres déjà réservés au bon Charles de Valois lui-même, pensait Robert d'Artois. À ce prix-là, on peut bien commander une croisade. J'aurai mauvaise grâce à chicaner, puisqu'une part doit m'en revenir.
Ah, si j'eusse été à Lyon à la place de mon défunt neveu Philippe lors du dernier conclave, s'écria Valois, j'aurais, sans médire de notre très saint père, choisi un cardinal qui comprit plus clairement l'intérêt de la chrétienté et qui se fit moins tirer la manche. Surtout depuis que nous avons pendu son neveu à Montfaucon ce dernier mois de mai,
observa Robert d'Artois. Mortimer se tourna sur son siège et regarda Robert d'Artois, surpris, en disant « Un neveu du pape ? Quel neveu ?»«
Comment, mon cousin, vous ne savez pas ?»
dit Robert d'Artois en profitant de l'occasion pour se lever, car il avait du mal à rester longtemps immobile. Et il alla repousser de sa botte les bûches qui brûlaient dans l'âtre. Mortimer avait déjà cessé pour lui d'être « mon lord », et il était devenu « mon cousin » à cause d'une lointaine parenté qu'il s'était découverte par les Fiennes. Avant peu, il serait « Roger », sans plus d'histoire.
Eh non, au fait, comment l'auriez-vous su ? Reprit Robert. Vous étiez en geôle par la grâce de votre ami Édouard. Il s'agit d'un baron gascon, Jourdain de Lille, auquel le Saint-Père avait donné une sienne nièce en mariage et qui commit quelques minces méfaits, à savoir volerie, homicide, forcer dames, dépuceler pucelles et un peu de bougrerie sur les jouvenceaux par surcroît. Il entretenait autour de lui voleurs, meurtriers et autres gens de mauvaise merdaille qui dépouillaient pour son compte clercs et laïcs. Comme le pape le protégeait, on lui fit grâce de ses peccadilles sous la promesse qu'il s'amenderait. Le Jourdain ne sut mieux faire pour prouver sa pénitence que de se saisir d'un sergent royal qui venait lui délivrer une sommation et de le faire empaler. Sur quoi ? Sur le bâton à fleur de lys que le sergent portait. Robert d'Artois eut un grand rire qui trahissait son naturel penchant pour la canaille.
On ne sait à vrai dire quel était le plus grand crime, d'avoir oxy un officier du roi ou d'avoir enduit les fleurs de lys de la crotte d'un sergent. Le sire Jourdain fut pendu au gibet de Montfaucon. Vous pourrez le voir encore si d'aventure vous passez par là. Les corbeaux lui ont laissé peu de chair. Depuis, nous sommes en fraîcheur avec Avignon. » Et Robert se remit à rire, la gueule en l'air, les pouces dans la ceinture. Et sa joie était si sincère que Roger Mortimer lui-même se mit à rire, par contagion. Et Valois riait aussi, et son fils Philippe. Cela les rendit plus amis de rire ensemble. Mortimer se sentit soudain admis dans le groupe Valois et se détendit un peu. Il regardait avec sympathie le visage de Monseigneur Charles, un visage large, haut en couleur, d'homme qui mangeait trop et que le pouvoir privait de prendre assez d'exercice. Mortimer n'avait pas revu Valois depuis de rapides rencontres, une fois en Angleterre d'abord pour les fêtes du mariage de la reine Isabelle, et puis une seconde fois en 1313, en accompagnant les souverains anglais à Paris pour le premier hommage. Et tout cela qui semblait hier était déjà bien loin. 10 ans. Monseigneur de Valois, un homme encore jeune à l'époque, était devenu ce personnage massif, imposant. Allons, il ne fallait pas perdre le temps de vivre, ni négliger l'occasion de l'aventure. Cette croisade, après tout, commençait de plaire à Roger Mortimer.
Et quand donc, monseigneur, vos nefs lèveront-elles l'ancre ? Demanda-t-il.
Dans 18 mois, je pense, répondit Valois. Je vais renvoyer en Avignon une 3e ambassade pour arrêter définitivement la fourniture des subsides, les bulles d'indulgence et l'ordre de combat.
Et ce sera belle chevauchée, monseigneur de Mortimer, où il faudra vaillance et où les pharaons auront à montrer autre chose que ce qu'ils font en joute, dit Philippe de Valois, qui n'avait pas parlé jusque-là et dont le visage se colora un peu.